Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Métropolez-vous pour un nouveau numéro du magazine dédié à l'actualité métropolitaine. Ces derniers temps, il a beaucoup été question d'événements culturels dans cette émission, que ce soit s'agissant de l'exposition Sex Appeal au Muséum, de Lumière sur le Quai au Quai des Savoirs ou de l'entrée de Toulouse au sein des villes créatives de l'UNESCO dans la catégorie musique. Depuis mardi, un autre établissement métropolitain de culture scientifique et technique, comme le sont le Muséum d'Histoire Naturelle et le Quai des Savoirs, vient d'ouvrir au public un nouvel équipement, une nouvelle installation. Cet établissement, c'est la Cité de l'Espace et l'équipement concerné, c'est l'UnExplorer, qui propose aux visiteurs de vivre une expérience de mission spatiale vers la Lune comme si vous y étiez. Les premiers à l'avoir testé ont tous été fort impressionnés par les sensations qu'il procure. Il est vrai que se mettre pour de bon dans la peau et le corps d'un astronaute n'est pas commun. Si vous avez toujours rêvé de vivre cette aventure, c'est l'occasion ou jamais de le faire. Nous allons vous expliquer comment au cours de cette émission. Et pour tout nous dire sur l'UnExplorer, j'ai invité le directeur général de la Cité de l'Espace, Jean-Baptiste Desbois, également directeur général de l'Envol des Pionniers. Bonjour et merci d'être venu dans nos studios pour nous présenter cet équipement dont l'inauguration et l'ouverture au public étaient très attendues.
Oui, bonjour à vous, mais merci pour l'invitation. C'était très attendu, je crois, à la fois des publics, de nos équipes aussi, hein, puis de la métropole. Ça fait quelques années que nous travaillons sur ce projet, un projet très important. Hein. C'est donc la transformation d'un ancien équipement de la Cité de l'Espace, donc une réhabilitation. Donc là, je trouve que c'est important de le dire par rapport aux problématiques du développement durable. C'est une transformation d'équipement en tant que tel, avec une extension autour, hein, une espèce d'anneau de Saturne autour de cette grande boule que le public connaît bien depuis plusieurs années à la Cité de l'Espace.
Alors, on va évidemment rentrer dans le détail de cet équipement de l'UnExplorer un peu plus tard dans cette émission. Mais d'abord, je voudrais qu'on parle de la Cité de l'Espace parce que c'est un lieu dont on entend souvent parler. On passe à côté sur le périphérique, on voit la fusée Ariane de très loin. Mais il faut peut-être rappeler ce qu'est cet établissement, ce qu'est sa vocation et ce que sont ses objectifs. Est-ce qu'il propose à ses visiteurs tout au long de l'année depuis plus de 25 ans tout de même? C'est 97 la création.
C'est ça, oui, ouverture en juin 1997, donc un peu plus de 26 ans d'ailleurs maintenant, donc une belle aventure de culture scientifique. Donc la Cité de l'Espace, c'est quoi? Sa vocation, c'est de vulgariser auprès du grand public les enjeux du spatial, mais auprès des citoyens aussi, comprendre pourquoi on envoie des missions vers la Station Spatiale Internationale, pourquoi on envoie des missions scientifiques, pourquoi on se projette actuellement vers la Lune ou vers Mars, à quoi servent les satellites que nous envoyons. Sachez que là, on vient tout simplement ce matin, le CNES estime qu'on a utilisé déjà plus de 25 satellites, quasiment rien qu'en se levant. C'est la météo que l'on écoute à la radio, c'est la géolocalisation si vous venez en voiture ou en vélo ou autre chose et que vous utilisez votre portable pour aller à tel ou tel endroit. C'est donc le smartphone, non pas la partie téléphonie qui est tertienne avec des pylônes sur Terre, mais la partie smartphone en tant que telle, etc., etc., etc. Donc le spatial irrigue notre vie, donc c'est ça qu'on explique au public. Et puis bien sûr, on le peut aussi, c'est d'inspirer les jeunes générations pour se projeter dans leur futur à elles. C'est elles qui vont construire cet avenir qui nous attend. Et puis, pourquoi pas de leur donner envie de travailler dans ce monde du spatial et de l'astronomie.
Voilà, la Cité de l'Espace, site référent en Europe hein, pour la diffusion de la culture spatiale auprès du grand public. Le statut juridique de cet établissement, parce qu'il y a un lien avec Toulouse Métropole, mais pas seulement. C'est ce qu'on appelle une société d'économie mixte.
Oui, alors pour faire simple, c'est une société de droit privé et qui a un contrat avec un propriétaire qui s'appelle Toulouse Métropole. Simplement, Toulouse Métropole est donc propriétaire de la Cité de l'Espace et de l'Envol des Pionniers, vous l'avez cité tout à l'heure. La particularité en tant que société anonyme, c'est que nous avons un capital majoritairement détenu par des collectivités, tête de file Toulouse Métropole, mairie de Toulouse, qui en l'occurrence était à l'initiative du projet avant que la métropole n'existe finalement, et puis la région Occitanie est également dans le tour de table de la CMSL, ce qu'on appelle la structure juridique, donc qui gère la Cité de l'Espace et l'Envol des Pionniers. Et puis ensuite, on va trouver la filière très présente auprès de nous, et ça c'est très bien, hein, pour nous faire réfléchir, orienter, travailler à la stratégie de développement et au contenu de la Cité de l'Espace. Donc c'est Airbus, donc dans la partie Defense and Space principalement. C'est Thales Alenia Space, c'est le CNES évidemment, qui a été à l'origine du programme également avec la ville de Toulouse et Airbus, et puis Météo France. Puis ensuite, on trouve Caisse des dépôts, Caisse d'épargne. Alors ça, ce sont vraiment les actionnaires administrateurs formellement autour du conseil d'administration. Et puis, nous avons ces deux partenaires importants en permanence auprès de nous qui ne peuvent pas être dans le tour de table. C'est le ministère de l'Éducation à travers le rectorat et c'est l'Agence spatiale européenne.
Le nombre de visiteurs annuels, il est impressionnant.
Oui, oui, on est toujours, nous aussi, impressionnés. On est heureux, c'est une belle reconnaissance pour les équipes du travail qui est accompli, puisque nous sommes maintenant à plus de 400 000 visiteurs. Vous l'avez dit, c'est le site le plus important en Europe, dédié au spatial. Donc c'est une belle fierté. C'est le site payant le plus visité de la métropole, un des sites les plus visités de l'Occitanie. Un site référent, oui, en termes de culture scientifique, oui, ça c'est absolument, et qui est en plein développement, puisqu'il y a 12 ans, vous rappeliez tout à l'heure les différentes étapes de la Cité de l'Espace. Il y a 12 ans, moi, je suis arrivé, on a repris le plan stratégique, on a lancé un plan de développement qui a vraiment porté ses fruits, puisque nous étions à l'époque à 270 000 visiteurs, c'est maintenant à plus de 400 000, and beyond, comme on dit dans le monde du spatial.
Et puis donc, il y a l'envol des pionniers qui est venu se greffer, ça fait partie de la SMECEL justement, qui lui est dédié à l'histoire de l'aviation depuis ses tout débuts jusqu'à nos jours.
C'est ça, c'est une belle marque de confiance de Toulouse Métropole qui également est propriétaire de cet établissement culturel qui a été monté effectivement pour faire revivre cette aventure des pionniers de l'aéropostale, enfin des lignes NetEquire d'abord, puis lignes aéropostales, où on travaillait des gens comme Saint-Exupéry, Mermoz, Didier Dora, Pierre-Georges NetEquire, il y avait ses bureaux, Marcel Moine, etc. Donc c'est un pan de l'histoire majeur de Toulouse. Le Toulouse aujourd'hui est né de ce germe déposé il y a plus de 100 ans, en 1917, par Pierre-Georges NetEquire, mais c'est aussi l'aviation française. Ce sont des compagnies aériennes. Le début, Air France notamment est né de
l'aviation
civile, commerciale et autres. Donc c'est un très beau sujet. Et effectivement, nous le gérons également avec la force de frappe de l'ensemble de nos équipes.
Et il y a en ce moment la très belle exposition de la NetEquire, toujours en cours jusqu'en 2024. Eh bien, merci pour ces quelques rappels bienvenus pour ceux qui ne connaissent pas ou peu la Cité de l'Espace et l'envol des pionniers. Dans quelques minutes, vous pourrez nous présenter l'Unexplorer, mais avant cela, nous allons faire un petit détour par l'actualité métropolitaine comme chaque semaine, grâce à Corinne Saint-Félix et son flash d'information hebdomadaire. Métropole et vous, l'actu. Du nouveau sur le front de l'habitat pour commencer, Toulouse Métropole double son financement à la construction de logements sociaux.
Oui, les demandes d'habitat social explosent. 42 000 demandes de logements sociaux sont insatisfaites dans la métropole. Pour y répondre, Toulouse Métropole, qui regroupe 37 communes de l'agglomération, a annoncé vendredi dernier son intention de doubler ses aides au secteur en proie à la crise immobilière et financière actuelle. Elle compte investir 32 millions d'euros dès 2024 et ce jusqu'en 2026. Ce plan de soutien massif à la construction prévoit 7000 logements par an, dont 2450 logements sociaux. Certains seront démolis pour reconstruire des logements moins énergivores. Ce plan de soutien devrait générer 5000 emplois sur l'agglomération.
Et encore un label pour la collectivité métropolitaine. Toulouse a été labellisée métropole de l'économie circulaire.
La collectivité s'est vue remettre les 3 étoiles du label économie circulaire de l'ADEME, territoire engagé dans la transition écologique. Le 9 novembre dernier, Toulouse Métropole organisait sa 3e journée de l'économie circulaire avec pour thématique cette année « Comment changer d'échelle ?». Cette journée est le 2e événement du Festival Toulouse Innovante et Durable après Capitole Végétale. Lors de cette journée à destination des professionnels, des tables rondes, ateliers et pitchs ont permis de proposer des pistes et solutions pour changer d'échelle.
Maintenant, une information à noter pour tous les usagers du métro. La station Saint-Michel de la ligne B à Toulouse sera fermée pendant presque un mois.
Depuis lundi dernier jusqu'au 10 décembre, les voyageurs ne peuvent plus s'y arrêter. Des travaux sont en cours dans le cadre d'un plan de remplacement des escaliers mécaniques. D'ici 2030, tous les escalators des lignes A et B seront remplacés par de nouveaux modèles, soit 120 nouveaux escaliers mécaniques. Le budget de ce plan s'élève à 22,2 millions d'euros, dont 1,4 million d'euros pour la seule station Saint-Michel.
Et enfin, un événement qui a rassemblé massivement les passionnés d'aéronautique. 12 000 fans étaient présents au Festival des étoiles et des ailes.
Ce week-end avait avait lieu pour la première fois à l'Envol des Pionniers, le festival aéronautique et spatial des étoiles et des ailes. Cette 9e édition, parrainée par Gérard Feltzer, ancien pilote de ligne et président d'Aviation Sans Frontières, a enregistré 12 000 visiteurs. C'est le double de la précédente édition il y a 4 ans. Il se situe alors à la Cité de l'Espace, en partenariat avec Toulouse Métropole et l'Envol des Pionniers. Ce festival entièrement gratuit a permis aux passionnés d'aviation de découvrir ou redécouvrir l'histoire de l'aéronautique et les univers de l'aviation et de l'espace. Un festival à poursuivre maintenant à la Cité de l'Espace pour vivre une expérience unique avec l'Unexplorer. Toulouse Métropole est d'ailleurs le premier financeur à 55%, suivi des fonds européens dans le cadre du plan de relance de cette nouvelle installation.
Merci beaucoup Corinne Saint-Félix pour ce flash d'informations métropolitaines. Un petit commentaire Jean-Baptiste Desbois sur la dernière information. Ce festival des étoiles et des ailes qui a eu lieu pour la première fois le week-end dernier à l'Envol des Pionniers, l'autre établissement que vous dirigez. Alors apparemment c'est un grand succès. Hein.
Oui, tout à fait, on en est très content avec la présidente Catherine Gay. C'est un peu un pari puisque l'Envol des Pionniers est encore tout nouveau finalement. Ça va bientôt fêter ses 5 ans. Nous aurons l'occasion, j'espère, d'en reparler. C'est à la fin de l'année. Nous allons fêter les 5 ans d'ouverture de l'Envol des Pionniers. C'est un quartier qui est encore, comment dire, en devenir. Hein. Il est encore en cours d'installation, encore en cours de chantier et autres. Et on souhaitait vraiment, avec Catherine Gay, faire revivre aussi ce quartier dans cette grande aventure de l'aéronautique et donc du spatial aussi, mais cette grande aventure de l'aéronautique. Et effectivement, le public est venu très, très nombreux et ça nous fait effectivement très plaisir et ça nous donne vraiment des perspectives intéressantes. En même temps, d'animation du quartier, hein, puisqu'on a travaillé également avec l'UGC hein, pour la partie film, qui est un des problèmes, c'est à la Cité de l'Espace. Nous avons une salle IMAX qui permettait d'avoir une sorte de festival du film. Là-bas, nous avons avec l'UGC, et c'est bien parce qu'on crée du lien aussi avec le quartier, on fait revivre un petit peu tout cela.
Oui, parce que ce sont des projets de quartier aussi. Hein,
oui, tout à fait.
Un établissement culturel qui s'implante quelque part. Pour le quartier en question, surtout quand c'est un quartier en devenir, bah, c'est toujours un appel d'air, si on peut
tout
dire, pour que les gens aillent le découvrir.
Retrouvez d'ailleurs des photos du quartier de la Plaine avant l'installation de la Cité de l'Espace. Vous verrez une grande friche. Et maintenant, il y a des entreprises, il y a plusieurs hôtels installés, des restaurants, etc. Donc on voit aussi l'impact de la retombée économique d'un équipement culturel.
Merci pour ces compléments d'information, c'était important de préciser. Nous allons tout de suite revenir à notre sujet du jour, l'ouverture au public de l'Unexplorer à la Cité de l'Espace.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
La suite de Métropole et vous avec Jean-Baptiste Desbois, directeur général de la Cité de l'Espace et de l'Envol des Pionniers. On en vient donc à l'Unexplorer, ouvert au public depuis mardi. Quel est précisément le concept de cette installation et qu'est-ce qu'elle propose de faire vivre au public? Là, on peut rentrer dans le détail.
L'idée, d'abord, à la Cité de l'Espace, c'est d'être à la fois sur les fondamentaux du spatial, comment on va dans l'espace, pourquoi on y va, qu'est-ce qu'on y cherche, qu'est-ce qu'on y trouve, qu'est-ce qu'on espère y trouver, etc. Et puis, suivre au plus près l'actualité spatiale. Or, l'actualité spatiale, il y en a plusieurs, mais l'une des actualités spatiales majeures qui commence à remonter en tête de pile des agences spatiales, c'est la Lune. La Lune, alors, pour des raisons à la fois scientifiques, comprendre encore mieux la Lune et puis le système Terre-Lune, le système solaire et autres, pour des raisons géopolitiques, hein, une espèce de nouvelle relation géopolitique entre la Chine et les États-Unis, un peu comparable à ce qu'on a pu connaître dans l'exploration lunaire des années 60 entre l'Union soviétique et les États-Unis.
Au moment de la guerre froide.
Au moment de la guerre froide. Voilà. Et puis aussi, la Lune pouvant être une sorte, non pas d'étape, mais un petit peu un point d'étape peut-être, oui, pour aller vers Mars ensuite et se préparer à cela, avec des installations de base lunaire, avec une station autour de la Lune qui permettra sans doute de partir depuis la Lune, donc depuis cette station, vers Mars, et non pas de partir depuis la Terre, ce qui sera beaucoup plus simple. Donc la Lune est un vrai grand sujet d'actualité.
Et un enjeu.
Et un enjeu, et nous allons, dans quelques années, là, les auditeurs qui m'écoutent, ou qui nous écoutent, vont redécouvrir un deuxième, pas de l'homme, on va dire, ou de la femme, surtout, je crois plutôt, sur la Lune, dans vraiment quelques années. Mars est un horizon beaucoup plus lointain. Donc on a été très attentif évidemment à cette dimension. Et puis la deuxième, c'est de notre ADN de vulgarisation scientifique, de faire en sorte, vous l'avez dit tout à l'heure, de mettre le public dans la peau, j'allais presque dire dans la combi, il n'y aura pas de combi, mais dans la peau d'un astronaute en mission pour la Lune. Et donc, lorsqu'on part en mission, lorsqu'un astronaute part en mission, il se prépare à la mission. Donc il y a un hall de préparation, on comprend pourquoi on va aller vers la Lune, comment on va y aller, etc. Comment on y est allé avant, comment on va y retourner. Ensuite, on est briefé pour la mission. Quelle va être la mission que vous allez passer, que vous allez faire? Ensuite, on embarque, on est dans la mission. Là, c'est vraiment la phase dynamique, sensorielle, c'est impressionnante, où on est vraiment dans une capsule de lancement, et on part vers la Lune, et on atterrit en Aluni. Donc, sur la Lune.
Il y a la fois le décollage et l'alunissage.
Absolument. Et ensuite, on débriefe la mission. Donc, on a une zone qu'on appelle le débarcadère. Et pendant toute cette mission, vous êtes accompagné, alors de manière virtuelle évidemment, par un grand interposé ou autre, par des astronautes de l'Agence spatiale européenne. Donc, Thomas Pesquet, Matthias Maurer, donc de nationalité allemande, mais européen. C'est un corps européen, les astronautes, désormais. Samantha Cristoforetti, italienne. Et puis, Claudie Nuret également, la marraine de la Cité de l'Espace.
40 minutes, hein, le tout, les quatre étapes.
Globalement, c'est à peu près ça.
Quarantaine de minutes, donc une expérience immersive,
donc,
là encore.
10 minutes dans la capsule. Donc.
Et c'est unique en Europe. Hein.
Oui, alors totalement unique en Europe, c'est totalement unique en Europe. C'est un gros investissement quand même, hein, c'est du 16 millions d'euros, porté par la métropole en l'occurrence, avec des fonds européens importants, et puis la région également. Nous-mêmes, la SMSL, nous avons mis également de l'argent dedans. C'est un gros investissement qu'on a beaucoup travaillé avec le monde spatial, avec des astronautes, avec des médecins, par exemple, ou les équipes du MEDES, hein, vous savez, cette fameuse clinique spatiale à Toulouse, avec le CADMOS, hein, qui travaille les expériences embarquées par les astronautes.
Oui, parce qu'on a tout ça à Toulouse.
Et on a tout ça à Toulouse.
C'est pas pour rien que ça se passe ici. Hein.
Exactement, vous avez bien fait de le rappeler. Absolument. Et donc, on a cette vertu, peut-être, cet ADN aussi, de faire savoir cette excellence de la filière toulousaine, française, européenne. Et donc, c'est absolument unique en Europe.
Et donc, financé en partie, à peu près à un tiers, par des fonds européens.
Oui, oui, c'est une belle surprise. Hein. Et donc, des fonds européens, qui sont en l'occurrence des fonds qui ont été montés par l'Union européenne, post-Covid, hein, pour favoriser la relance d'un certain nombre de pans de l'économie, et notamment ce qui nous concerne, la dimension du tourisme scientifique.
Alors, une question que se posent forcément les gens qui nous écoutent, hein, est-ce que c'est impressionnant au point de faire ressentir éventuellement une espèce de peur panique à des personnes qui seraient très émotives ?
Non, alors, notre travail, c'est de rendre les choses les plus accessibles possibles. Ça, pour nous, c'est évident. Je prends un exemple aussi par rapport à votre question. Il est totalement accessible aux personnes, au public qu'on appelle les publics empêchés. Par exemple, des PMR, hein, fauteuil roulant, peuvent venir, seule condition, c'est d'arriver à se translater de leur fauteuil dans la capsule. Et nous, on a tout prévu, les gens sont accompagnés. Les malvoyants, les non-voyants, les malentendants, les personnes en difficulté mentale, etc., c'est totalement accessible. Simplement, on est au plus proche de la réalité, ça pour nous c'est fondamental, plus proche de la réalité d'un lancement spatial. Et donc, au maximum, on va monter à 2G. Alors 2G, c'est-à-dire qu'on pèse deux fois son poids.
Corps, hein.
Mais la question, c'est quelle est la durée de cette expérience-là. Donc chez nous, elle est relativement courte, parce qu'on veut être accessible. On veut que le maximum de gens puissent le faire. Si ça durait effectivement plusieurs minutes, plusieurs dizaines
comme
de minutes,
c'est le cas
autres,
pour un véritable
comme c'est le cas
lancement.
Pour les... Exactement, pour c'est les un petit peu plus que deux d'ailleurs, c'est plutôt vers trois que deux. On s'est volontairement arrêté à deux, mais avec les mêmes courbes de lancement.
Et c'est plus long.
Progressif, ouais. Et c'est plus long. Et nous, c'est progressif. Les seules choses, simplement, il faut mesurer plus d'un mètre trente. Ça, ce sont des normes de ce genre d'équipement. Ensuite, c'est déconseillé aux femmes enceintes et personnes qui ont des problèmes cardiaques ou des pacemakers, par exemple. Mais je dis déconseillé, c'est-à-dire aux personnes d'apprécier, hein, leur état de santé par rapport à ça. C'est également déconseillé, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, aux personnes qui ont le mal des transports, par exemple, hein, et donc des problèmes d'oreille interne. Voilà, on a passé déjà plusieurs centaines de personnes dans l'Une Explorer avec à la fois la visite de presse.
Il n'y a pas eu de malaise, il n'y a pas eu de crise de panique.
Non, mais attendez, surtout pas, parce que là, on est plus dans notre monde, il faut bien de le dire. On voit par exemple des personnes qui s'interrogent, est-ce que je vais arriver à le faire, j'ai un peu la trouille, des fois j'ai un peu le mal de mer ou le mal de la route, etc.
Vertige aussi, je pense.
Ou des vertiges, ouais. Voilà, par exemple, enfin, tout ce qui commence à l'oreille interne. Simplement, on a vu des gens dire à des amis, bah, t'en passes devant moi, et puis tu me raconteras, puis tu me diras si tu penses que je peux le faire. Et puis des gens qui n'osaient pas le faire, qui l'ont fait, qui ont dit, ah mais finalement, c'est
oui, parce
super,
qu'on
quoi,
sent ça, qu'on
c'est...
est en sécurité, que
ah, bah, totalement,
on est entouré,
ouais,
bien préparé. Hein,
et puis nous, l'idée, si vous voulez, c'est pas du tout dans un système où on effraie, enfin on n'est pas d'attraction à grand but, c'est pas du tout notre vocation, nous en l'occurrence. C'est vraiment de faire ressentir au public ce qui se passe. Et le public, en même temps, il est capté par le hublot. On a un très bel hublot où on voit des images du décollage. Alors tout d'un coup, on est sur le pas de tir, c'est assez magique. Ensuite, on décolle, on traverse les nuages, on aperçoit la Lune, mais on va se retourner parce que la capsule se retourne avant d'arriver sur la Lune. Donc on accélère pour freiner, toujours paradoxal, mais c'est comme ça. Et là, on voit la Terre. Enfin, il y a des très très belles images, on est embarqué dedans. Puis vous avez un tableau de contrôle. Puis on vous demande de temps en temps d'appuyer sur un bouton. Et vous verrez qu'à 2G, j'espère que vous ferez l'expérience rapidement. Qu'on est à 1G5, on arrive encore à appuyer sur le bouton de contrôle.
Voilà. Et après, on peut plus bouger.
Mais beaucoup de gens n'y arrivent pas.
Le mouvement devient très compliqué.
Voilà. Et donc, ça veut dire aussi que tout au long des 5 minutes de phase dynamique, on est 10 minutes dans la capsule, le temps de s'installer, de prendre ses marques, de prendre en photo éventuellement, de s'attacher bien sûr ou autre. Et puis ensuite, on a 5 minutes de phase dynamique dans lesquelles on est quelque part happé par le scénario. Donc la peur pour ceux qui l'ont, en fait, elle disparaît naturellement.
Pour ceux qui veulent y aller en famille, puisque le but aussi c'est d'y aller en famille, oui. Puisqu'il y a une capsule, il y a 4 places. Hein, donc,
c'est 4 places par
exemple,
capsule.
Un couple peut y aller avec 2 enfants.
Tout à fait.
Concernant les enfants, le seul critère qui pourrait faire qu'ils ne pourraient pas, c'est la taille, c'est le seul. Hein.
C'est 1m30 uniquement, et puis 1m40 jusqu'à 1m40, entre 1m30 et 1m40 pour dire précisément.
Il faut être accompagné par un adulte.
Il faut être accompagné par un adulte. Voilà. Ce sont des normes, hein, de genre d'équipement, hein, qui nous permettent d'avoir l'autorisation de le faire. Il y a 10 capsules en même temps, et chaque capsule est quelque part individuelle. Donc c'est un groupe, c'est une famille, ce sont des amis, ce sont des gens qui ne se connaissent pas, qui se retrouvent en lancement. Voilà. Et on est dans une capsule de lancement.
Est-ce qu'il faut réserver sa place pour être sûr de passer au moment où on y va à 16h, par exemple? Est-ce qu'il faut avoir réservé avant pour être sûr de passer à 16h? Est-ce qu'il peut y avoir la queue? Pour l'instant, ça vient juste d'être lancé, hein, donc vous n'avez peu de recul, mais est-ce que vous pensez que c'est une sage précaution?
Alors pour le moment, nous sommes dans une gestion de file d'attente classique comme toute autre gestion de flux à la Cité de l'Espace, comme ça peut être pour l'IMAX, pour le Planétarium, pour les expos et autres, ou le Terrain Martien, si je prends quelques exemples de ce que l'on propose à la Cité de l'Espace. Donc pas de réservation. Il y a une appli qui s'appelle Ma Cité de l'Espace, sur laquelle le public peut voir un peu les temps d'attente sur les différentes animations que nous proposons, mais pas de réservation. Et ça me permet de rappeler que le Lune Explorer est inclus dans le prix d'entrée de la Cité de l'Espace. Il n'y a pas de tarif en plus. Ça, on y tenait beaucoup. C'est vraiment le rendre accessible au plus grand nombre.
Voilà, donc on prend son ticket à l'entrée comme si on allait faire une visite complète.
Tout
et on
fait.
Peut, au passage, faire l'expérience
Lune
Explorer.
Comme on peut aller dans l'IMAX ou pas, comme on peut aller dans les expos ou pas, comme on peut aller dans le Lune Explorer ou pas. Et à tout moment, pour revenir à la question précédente, quand on est dans le flux, on peut s'en échapper. Hein, quelqu'un qui finalement dit « allez, j'y vais », puis les copains disent « mais si », ou la famille « allez, viens avec nous », etc. Et puis finalement,
il le sent pas.
Au dernier moment, la personne peut sortir. Et évidemment, on accompagne tout le public.
Oui, donc il y a possibilité
de
zapper au dernier moment, bien entendu. L'important
pour nous, c'est la culture scientifique, c'est que les gens se disent après, quand ils verront le décollage de Thomas Pesquet, de Sophie Adnaud, d'une mission vers la Lune ou autre, dire « ah mais ils sont en train de partir, là je suis en train de voir sur le pâtir la fusée qui part, mais ça je l'ai vécu, ah oui c'est ça qu'ils sont en train de vivre là, c'est ça que l'on veut faire ».
Alors, puisqu'on en parlait, Lune Explorer, donc c'est 40 minutes, donc il faut en profiter pendant qu'on est à la Cité de l'Espace pour voir d'autres choses. Par quelle autre proposition conseilleriez-vous de compléter le passage à la Cité de l'Espace, après ou avant d'ailleurs, avoir vécu l'expérience Lune Explorer?
Ah, c'est une question compliquée, puisque
le sujet de la Lune.
Alors, si on est en lien avec le sujet de la Lune, je dis au public, ne manquez surtout pas la pierre de Lune, ramenée par Apollo 15 en août 1971, dont je m'amuse à dire qu'elle a 3,3 milliards d'années, plus 52 ans et demi, ou presque, enfin 52 ans. On est sur des 52 ans, un peu moins des 3,3, enfin en tout cas, c'est les estimations.
Elle est sur Terre depuis 52 ans.
Elle est sur Terre depuis 52 ans, en tout cas, et ramenée à la main. Vous voyez, elle a été cueillie, j'allais presque dire, par les astronautes d'Apollo 15. Il y en a peu d'exposés dans le monde. C'est une vraie marque de confiance de la NASA auprès de la Cité de l'Espace. Elle a exposé quasiment depuis l'origine, depuis un an après l'ouverture de la Cité de l'Espace. Il y a aussi une animation où on explique au cœur des jardins, nous avons le LEM, hein, donc le module lunaire, une copie du module lunaire d'Apollo 11. Échelle 1, on y tient toujours à cette échelle, de façon à ce que le public comprenne de quoi l'on parle et de quoi il s'agit. Et donc ce module lunaire, autour de lui, nous animons le premier pas de l'homme, de Neil Armstrong et de Buzz Aldrin sur la Lune, et pour montrer ce qu'ils ont fait, comment ils sont descendus, quels ont été leurs premiers pas, leurs premières actions. Et on constate que d'abord c'est une mission qui a été très courte évidemment, 3 heures, et ils sont restés complètement autour, évidemment, par des questions de précaution évidentes, ils sont restés autour alors que les autres missions sont allées beaucoup plus loin avec des jeeps, etc. pour investiguer plus la Lune. Donc voilà un petit peu pour cela. Nous avons aussi un module lunaire chinois à la Cité de l'Espace. Il s'appelle Chang'e 4, qui s'est posé sur la face cachée de la Lune. Donc une mission assez exceptionnelle du monde spatial chinois. Voilà, etc., etc. Voilà. Hein, donc, beaucoup de choses par rapport à cela. Puis après, la Cité de l'Espace, elle est à la fois dense et très accessible. On utilise tous les outils, je veux dire, de médiation, de communication avec le grand public. Ce sont à la fois les films IMAX, actuellement un très beau film sur les astéroïdes. Donc, à la fois, est très bluffant, nous embarque alors, en 3D, vous passez des ceintures d'astéroïdes, donc vous êtes presque à chavirer sur ce taille pour les éviter lorsqu'ils vous arrivent dessus. Et puis en même temps comprendre ce que c'est et comment on travaille pour les détecter et pour faire en sorte qu'ils évitent la Terre s'il y avait un géocroiseur, comme on appelle ça, qui pourrait être dangereux. Planétarium où on décrypte, on comprend, on s'embarque, on admire le système solaire et l'univers and beyond, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc au-delà de ce système solaire, quel est l'univers qui nous entoure? Nous avons une très belle expérience aussi. Alors, c'est la Lune, c'est les astronautes, et donc plus large que la Lune seulement. L'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, recrute ses astronautes. Donc c'est quelque chose que nous avons monté il y a 2 ans maintenant en parallèle au recrutement des astronautes qui a abouti donc au recrutement de Sophie Adnaud et puis d'Arnaud Prost en réserve, donc l'an dernier. Et donc pendant 40 minutes, le public, on lui fait vivre des petites sélections ou des modules de sélection comme l'Agence spatiale européenne. Alors c'est très interactif, très amusant. Et on se rend compte de ce que ça signifie que d'être sélectionné.
De tous les critères qu'il faut remplir pour
physique, physiologique, de mémoire courte, de mémoire longue. On vous donne à un moment au niveau mémoire, des chiffres rouges sur fond vert, alors vous devez les lire, les retenir, voilà. Ça c'est aussi des tests, vous voyez, de vue, etc. En même temps, puis de mémoire, on vous demande de les réciter à l'endroit, à l'envers, après on va vous demander de les mettre en russe ou en anglais, ou je ne sais quoi, bref. Et puis 20 minutes plus tard, vous êtes totalement sur autre chose, sur un test de logique ou de coopération dans un jeu pour voir
donc
comment
vous
faites.
Il faut une agilité en plus, intellectuelle.
Oui, mais on vous dit 20 minutes plus tard, quel était le chiffre en rouge sur fond vert? Personnellement, j'ai un petit peu le mal là.
Il se comprend.
Voilà. Et puis on a un terrain martien.
Oui, alors le terrain martien, justement.
Oui. Terrain martien, alors c'est devenu un incontournable de la Cité de l'espace aussi. Mars, je l'ai dit, est aussi un des grands sujets d'actualité spatiale, mais on est à l'horizon plus lointain pour le moment. On a des robots, hein, ou des rovers comme Curiosity puis Perseverance, dans lesquels Toulouse et la France sont très très impliqués. Donc l'IRAP à Toulouse, l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie et le CNES, l'Agence française spatiale, sont très impliqués. Et nous avons reconstitué, en l'occurrence grâce au CNES et à l'IRAP, nous avons reconstitué un cratère, alors là évidemment pas à l'échelle, là, un cratère martien sur Terre, cratère Merkou en l'occurrence. Je dis ça comme ça, mais c'est la forme des roches, les sédimentations des roches, la colorimétrie des roches ont été travaillées avec eux. Et on avait même quelqu'un de l'IRAP qui venait régulièrement à la fin pour vérifier que la colorimétrie était bonne, etc. Et puis nous faisons travailler donc dans ce cratère, face à 250 personnes du public qui sont sur des gradins, nous faisons travailler Perseverance, donc le rover américain qui s'est posé donc de la NASA avec des instruments français, qui s'est posé en février 2021 sur Mars, et puis Zhejiang, rover chinois qui s'est posé lui en avril.
L'exposition Lune épisode
2.
Oui,
vous avez raison, j'aurais dû en parler aussi.
Parce que absolument. Là, on a parlé de la Lune, dans le rétro, si je puis dire. Oui. Mais maintenant, il y a la Lune, c'est devant nous.
Absolument.
C'est de nouveau l'avenir.
Absolument. Lune épisode 2. Lune épisode 2, effectivement, ce qu'on a voulu reconstituer là, c'est une base lunaire, telle que pourrait être une sorte de base lunaire de demain. Et donc, dans cette base, comprendre comment on va vivre ou survivre sur la Lune, comment on va pouvoir travailler, comment on va pouvoir récupérer de l'eau, des matériaux pour construire l'habitat. Voilà, c'est un peu se projeter, donc comment on va aussi produire des légumes. On est en train de mettre un nouveau module bientôt, ce sera pour la rentrée de février, pour la rentrée de l'an prochain, un module pour montrer des jardins hydroponiques, des potagers hydroponiques par exemple, ce qui peut aller sur la Lune. Donc projeter le public effectivement sur ce qui peut être une base lunaire.
Tout ça est passionnant, on pourrait en parler pendant des heures, mais bon, on arrive au terme de cette émission. Je pense qu'on a donné toutes les précisions nécessaires pour que nos auditeurs puissent se faire une idée de ce qu'est Lune Explorer et de l'expérience que propose cette installation visiteur de la Cité de l'espace, sans parler de tout ce qu'on vient de détailler avec vous à l'instant. Merci beaucoup Jean-Baptiste Desbois pour cette présentation très complète. Il y a beaucoup de choses à faire et à voir à la Cité de l'espace et j'invite nos auditeurs à se renseigner en consultant le site www.cité-espace.com pour préparer leur visite. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et allez donc le passer à la Cité de l'espace.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.